Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonsoir à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque vendredi soir pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et on a d'ailleurs le plaisir de se retrouver le vendredi puisque c'est la première fois de l'année. La semaine passée, on parlait encore de Melavé Malka, c'était samedi soir. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Rav Lemel, bonsoir et Shabbat Shalom. Rav Lemel, on passe donc à une nouvelle paracha où on voit les dernières plaies d'Égypte ainsi que une conversation, si on peut appeler ça ainsi. Un dialogue entre, c'est plus juste, entre Dieu et Moïse. Et Hachem dit à Moïse, Moshé, va voir Paro. Et il a cette phrase qu'on connaît bien et qui est toujours étonnante, j'ai renforcé son cœur. Alors, pourquoi j'ai renforcé son cœur? Il y a déjà énormément à dire, mais il y a aussi une question qui se pose, c'est que il y a une question de libre arbitre.
Oui, tout à fait. C'est vrai que ce début de paracha, dans lequel Hachem rappelle à Moshe qu'il a endurci ce cœur du Pharaon, est quelque chose quand même d'assez surprenant. Et cet élément nous amène à réfléchir sur tout l'enjeu du libre-arbitre. Alors, cette question est posée par de très nombreux commentateurs en se disant, mais au fond, c'est quoi cette histoire que Dieu a renforcé le cœur de Pharaon? Et d'ailleurs, c'est très clair, puisque le verset nous dit « afin que Dieu puisse aller jusqu'au bout, si on peut s'exprimer ainsi, de toutes ses plaies ». Alors, il y a ici plusieurs lectures possibles. Maïmonide, entre autres, va nous dire eh bien, que lorsqu'en effet une personne, à un moment faute, recommence, n'entend absolument pas le message de Dieu, eh bien à ce moment-là, Dieu dit « bon, mais il n'y a pas de problème, j'ai compris, alors maintenant on va aller jusqu'au bout des choses ». Mais néanmoins, ça pose quand même la question, mais ça sert à quoi de renforcer le cœur, puisqu'il semblerait que cette personne, en tout cas clairement, ne veuille pas se soumettre à la volonté divine. Et le Rav Dessler va nous ouvrir à une réflexion très très intéressante sur ce sujet. Et on va prendre l'exemple du Pharaon. Le Pharaon donc, rappelons-nous, a été confronté tout d'abord à cette parole de Moshe, de Moïse, lui disant qu'il devait laisser sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Le pharaon, bien sûr, a refusé, s'est opposé à cela, et commence par la suite le processus des plaies. Et 1, 2, 3, 4, ça avance, et évidemment, à un moment, que va-t-il se passer? Le pharaon risque de plier. Pourquoi est-ce qu'il risque de plier? Parce que ça devient insupportable, parce qu'au fond, l'économie de l'Égypte, enfin, tout est en train de s'écrouler. Et c'est vrai que face à une situation pareille, il risque à un moment de se dire « je me plie, j'accepte, je ne veux pas que mon pays aille jusqu'à la dévastation complète ». Et donc ça y est, comme dans une forme de match, si je peux m'exprimer ainsi, Dieu a gagné, lui a perdu, et puis voilà, bon, mais d'accord, qu'il parte. Or, l'idée ici, c'est non pas que le peuple d'Israël parte, parce que, rappelons-nous, Dieu peut tout faire. Si Dieu veut juste que le peuple d'Israël disparaisse, il suffirait par exemple juste de faire disparaître le pharaon. Enfin, il y a mille et une manières pour le créateur de l'univers de remplir, si je peux m'exprimer ainsi, son objectif. Donc ici, il y a un autre enjeu. Cet enjeu, c'est quoi? C'est justement cette confrontation entre le pharaon et tout ce que ça représente et le divin. Il faut qu'à un moment, le pharaon reconnaisse réellement que, eh bien, sa vision du monde, son regard sur l'existence n'est pas le bon. Il faut qu'à la sortie d'Égypte, ce que représente la civilisation égyptienne, ce soit, pardonnez-moi, littéralement incliné devant le créateur de l'univers et reconnaisse que leur vision et leur manière d'appréhender l'existence n'est pas la bonne. Et c'est là où, en effet, eh bien, Dieu va donner la force au pharaon. Il va lui donner la force de résister pour que le choix qu'il fait soit un vrai choix et non pas un choix par défaut parce qu'il n'a pas la force de s'opposer à Dieu. Il faut qu'intellectuellement parlant, il arrive à la conclusion qu'il se plie et qu'il se soumet à la volonté divine, non pas et je me répète, parce qu'il n'a pas le choix, mais parce qu'il est arrivé à une conclusion qu'en effet, il y a un créateur de l'univers et qu'il doit être complètement soumis à celui-ci. Je vais donner un exemple qui va peut-être vous faire sourire. Et si on imaginait, voilà, deux personnes qui sont là, et puis une personne à un moment a envie de prendre, allez, il y a sur la table un morceau de gâteau, et l'autre personne qui est en face lui dit « je te l'interdis ». Et l'autre lui dit « oui, mais enfin, je le mange ». Il prend le morceau de gâteau et au moment où il prend le morceau de gâteau, eh bien, la personne qui est en face, on va dire, allez, lui met un coup de poing en pleine figure, ce qui est évidemment inacceptable, mais imaginez une situation pareille. Alors, évidemment, il ne va pas manger son gâteau parce que l'autre est très fort et il vient de lui faire très mal. Et quelques minutes après, eh bien, imaginons toujours les deux mêmes personnages et puis le premier personnage, toujours celui qui voulait manger le gâteau, maintenant veut boire un verre quelconque, de boisson quelconque. Et la personne qui est en face lui dit « je te l'interdis ». Et l'autre lui dit « oui, il n'y a pas de problème, bien sûr, je ne boirai pas ». Évidemment, pourquoi est-ce qu'il n'a pas bu ? Non pas parce qu'il a fait le choix de se soumettre à la volonté de l'autre, mais parce qu'il n'a pas le choix, parce que justement, il s'est pris un tel coup la première fois qu'il n'a pas envie de retenter l'histoire. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que le Pharaon se soumette parce qu'il n'a pas le choix, parce que tout simplement, il est écrasé sous ses plaies. Non, il faut que le Pharaon ait la force de résister. Il faut qu'il ait cette force à l'intérieur de lui de tenir le choc et d'arriver à un moment, à une conclusion claire, c'est que le Créateur de l'univers manifeste à travers toutes ses plaies, sa puissance, le fait qu'il dirige le monde. Et donc le Pharaon arrive à la conclusion que oui, en effet, il y a un Créateur de l'univers. Il l'accepte, il se soumet, et à partir de là, le processus de libération peut se mettre en place. On peut aussi voir dans cette dimension de Dieu qui renforce le cœur du Pharaon, autre chose. Le Talmud nous dit « Bederer she'adam rotze leler molichimoto » ou alors le Talmud nous dit aussi « Haba le tamé mesaim lo potrim lo ». Alors, que veulent dire ces deux expressions ? Tout d'abord, dans le chemin dans lequel l'individu veut aller, eh bien, on le fait aller. Celui qui a envie de s'impurifier, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien, Dieu lui donne cette possibilité. Traduction : à un moment, lorsqu'une personne montre qu'elle veut absolument prendre une direction, qu'elle est là, qu'elle n'entend strictement rien des avertissements, de ce qu'on lui dit, elle a ce désir profond qui l'habite de prendre et d'aller dans une dynamique qui n'est pas nécessairement la bonne, eh bien Dieu dit, si tu as envie d'y aller, eh bien on va te permettre d'y aller maintenant. C'est-à-dire que à un moment, on ne peut pas empêcher sans arrêt une personne qui a envie de prendre la mauvaise direction, de ne pas la prendre. Alors c'est vrai que c'est bouleversant, et d'ailleurs, la plupart du temps, les événements auxquels on est confronté sont autant d'enseignements, ou en tout cas de rappels à l'ordre, que le Créateur fait, mais qui sont l'expression de l'amour qu'il a pour toutes ses créatures, et plus particulièrement pour le peuple d'Israël. Lorsque on est confronté à une situation, eh bien Dieu est en train de nous dire « Je te donne une indication pour réfléchir si véritablement le chemin que tu prends est le bon chemin, s'il n'y a pas lieu de se remettre en cause. » Lorsque vous aimez profondément quelqu'un, eh bien évidemment, lorsque vous voyez que cette personne ne prend pas un chemin qui est positif par rapport à elle, vous n'avez qu'une envie, c'est de lui donner les moyens de prendre la mesure qu'il faudrait peut-être qu'elle se pose un instant, qu'elle réfléchisse, est-ce que véritablement c'est ça la bonne direction ? Mais au bout d'un moment, eh bien, si la personne persiste et signe, persiste et signe, persiste et signe, et elle ne veut surtout pas alors qu'on lui donne les éléments, eh bien, c'est l'expression de son choix. Et ici, en effet, le Pharaon va avoir, dit le Rav Dessler, la force de pouvoir se positionner face à Dieu. C'est-à-dire un petit peu comme dans l'histoire avec le gâteau et la boisson, c'est comme si on avait donné à la personne qui a reçu ce coup de poing la force de résister à ce coup de poing. Elle n'a pas peur. Vas-y, tu veux frapper, tu peux frapper. Et à ce moment-là, il décide ce qu'il veut faire réellement. Cette paracha est en train de nous apprendre qu'il faut être attentif au message que le Créateur nous envoie, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif, qui sont souvent eh bien, des moments dans lesquels on nous demande de nous poser un instant et de réfléchir et de voir un petit peu dans quelle direction on doit aller. Et ce ne sont pas nécessairement que des événements bouleversants et dramatiques. Sans rentrer dans les détails, parce que je ne suis pas un grand spécialiste, mais il me semble que cette semaine, il y a des actions technologiques qui ont fortement baissé suite au fait qu'il y aurait eu une nouvelle IA chinoise qui reviendrait beaucoup, beaucoup moins cher. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je n'en sais rien. Ce n'est pas mon univers. Mais ce qui est sûr, c'est que, voilà, Dieu est en train de dire, à un moment, on a des certitudes, et puis il y a quelque chose qui peut nous amener à nous dire, mais peut-être que ce n'est peut-être pas si évident que cela. Le fait de nous interroger, de nous dire, est-ce que véritablement, il faut tellement s'investir dans tel et tel domaine? Peut-être qu'il faut réfléchir et voir où se situe l'essentiel, plutôt que de se focaliser sur l'accessoire. C'est aussi cela, hein, une réflexion qu'on nous propose d'avoir. Alors, voilà un petit peu, en tout cas, ce que la Torah est en train de nous relater à travers et de nous enseigner à travers cette histoire du Pharaon. À nous de savoir, évidemment, en tirer les enseignements, les plus positifs qu'ils soient. Shabbat shalom.
Rav Eli Lemel, merci, et Shabbat shalom. Et nous sommes en ligne à présent à Jérusalem avec Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai et Shabbat Shalom. Alors Rav Mordechai, vous avez un autre point encore qui vous interpelle, qui lui aussi est assez connu, c'est la promesse faite par Dieu au Bnei Israël de sortir avec une grosse fortune. Est-ce que vraiment c'était nécessaire? C'est la question sur laquelle vous nous invitez à réfléchir ce soir.
Eh oui, effectivement, mon cher Bernard, Shabbat Shalom à vous, à toute la rédaction, toute l'équipe, à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, puisqu'effectivement, nous recommençons à diffuser cette émission, donc, la veille de Shabbat. Alors, on est dans Parashat Bo, on en a parlé la semaine dernière, c'est la Parashat de la sortie d'Égypte, c'est la Parashat des sept plaies, pardon, les trois dernières plaies qui vont frapper les Bnei Israël, et c'est la Parashat où les Bnei Israël sortent d'Égypte, sont délivrés physiquement, mais ils sont aussi délivrés idéologiquement, philosophiquement. Ils se débarrassent complètement de l'idolâtrie égyptienne puisqu'ils vont sacrifier le dieu égyptien aux yeux et à la barbe des Égyptiens. Et donc, effectivement, on est au cœur de cet événement que nous ne cessons de rappeler tout au long des prières, tout au long des événements de la vie juive, Zecher l'Etziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. Cette libération formidable où un peuple se libère spirituellement avant de se libérer physiquement. C'est même la condition de sa liberté physique. Mais je voudrais revenir avec vous sur une histoire très étonnante, qui est l'histoire de l'argent. Vous savez que lorsque Dieu explique à Avraham Avinu que sa descendance sera esclave dans un pays, ils sortiront avec un rechouche gadol, ils vont sortir avec une très très grosse fortune. Ils vont sortir avec beaucoup d'argent. Et effectivement, le Midrash nous raconte que chaque juif avait 90 ânes pour porter les richesses qu'il avait pu emmener d'Égypte. Et mieux que cela, au moment de l'ouverture de la mer Rouge, qu'on va dire la semaine prochaine, les Bnei Israël ont récupéré encore des quantités d'or absolument faramineuses, d'or et d'argent. Et donc, quelle était la raison pour laquelle il fallait que les choses se passent de cette manière et que les Bnei Israël donc, puissent récupérer une partie, la plus grande partie de la fortune égyptienne? C'est pour qu'on ne dise pas la première partie de la prophétie s'est réalisée, à savoir l'esclavage, mais la deuxième partie qui promettait une libération et une libération avec des biens matériels, avec de l'argent, ce n'est pas réalisé. Il fallait que tout soit réalisé. Mais malgré tout, il faudrait en comprendre la place qu'occupe cette préoccupation de faire sortir les Bnei Israël, selon l'expression de la Torah, Berechush Gadol, avec une très très grosse fortune, une grosse fortune en main. Pourquoi? D'une certaine manière aussi, ça va un petit peu à l'encontre de ce que nous disent nos sages dans Pirkei Avot, dans les Maximes de nos Pères, chapitre 6, Mishnah 5. Quel est le chemin par lequel on peut acquérir la Torah? Eh bien, tout simplement qu'on va se contenter de peu, qu'on va manger du pain trempé dans du sel, et on va boire dans une auge. Bref, les sages nous disent, pour acquérir la Torah, la Torah ne peut se faire acquérir, nous dit Resh Lakish dans le traité Brachot à page 63, que par quelqu'un qui se tue pour elle. Donc, d'une certaine manière, cette préoccupation de faire sortir les Bnei Israël avec une très très grosse richesse, elle va un petit peu à l'encontre de la manière dont la Torah est acquise. Or, on sait très bien que si les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, c'était pour recevoir la Torah, comme on le dit dans le Passouk, Hachem fait sortir ce peuple d'Égypte afin qu'il le serve sur la montagne où ils vont recevoir la Torah. L'objectif, c'était de recevoir la Torah. et recevoir la Torah avec des millions en poche, n'est-ce pas un peu contradictoire? Alors je voudrais vous rassurer, la réponse est non, on va expliquer pourquoi. En fait, quelle est la fonction de l'argent? L'argent, l'or, les bijoux, les pierres précieuses, c'est de réveiller l'intérêt, mais c'est aussi de réveiller le désir. L'argent, en hébreu, c'est ce dit kesef, du mot sif, c'est le désir. En vérité, ce qui va derrière cette dépossession de l'Égypte et finalement cette réappropriation de l'argent par les Béné Israël, c'est tout simplement la gestion et l'éveil du désir. C'est une image, en fait. Dieu va leur mettre entre les mains une très très grosse fortune pour éveiller en eux le désir, pour éveiller en eux la volonté, pour éveiller en eux le dymion, l'imagination, le rêve. Il va falloir utiliser ces forces. Toutes les forces qu'Hachem nous donne sont des forces qu'on doit voir utiliser pour la Torah. En fait, on ne peut pas étudier la Torah sans désir, on ne peut pas la recevoir sans un désir ardent, on ne peut pas accomplir véritablement les mitzvot si on n'est pas mu par un enthousiasme, par une volonté très puissante, très forte, par un désir profond, ancré, de faire un avec la volonté d'Hachem, de faire un avec Hachem. Mitzvah en hébreu, ça vient du mot tsaftar, ensemble. On est avec Hachem. On peut même dire que d'une certaine manière, faire une mitzvah, c'est être avec Hachem. Les dernières lettres du mot mitzvah, c'est vavke, c'est les dernières lettres du nom de Dieu. Et même etzadé, dans un système de correspondance de lettres en hébreu qui s'appelle le hatbash, eh bien, ces lettres-là, même tsadé, correspondent aux lettres yudke. Donc on a yudke vavke, les lettres du nom de Dieu. Quand on fait une mitzvah, on est avec Hachem. Cette mitzvah-là, toute mitzvah qu'on fait, elle doit être portée par un désir et un enthousiasme profond. C'est ce qu'on nous demande. Et en fait, la réalisation de cette promesse, selon laquelle les Béné Israël vont sortir avec un rechouche gadol, avec une grosse fortune, c'est tout simplement pour qu'ils aient entre les mains un instrument qui représente par excellence le désir, et qu'ils sachent reporter ce désir et cette itlaavout, cet enthousiasme, vers l'étude de la Torah et vers l'accomplissement des mitzvot. Mais revenons aussi sur la question de fond. Est-ce qu'il y a une contradiction entre le fait d'être riche et d'étudier la Torah? Est-ce qu'il y a une contradiction entre le fait d'être nanti et de faire des mitzvot? Alors, pour répondre à cette question, il faut bien se rappeler finalement le but de la création et finalement le but de la possession dans ce monde. Qu'est-ce que c'est posséder? Posséder une maison, posséder une voiture, posséder de l'argent? Eh bien, posséder, c'est lié à cette pulsion qui consiste à vouloir faire un. Et en fait, nos sages nous disent, le monde est un machal. Machal, on traduit par parabole. Mais la fonction du machal, c'est de permettre à une idée abstraite d'atterrir dans le réel. Pour que le désir ardent de spiritualité atterrisse dans le réel, il faut aussi que l'homme fasse l'expérience pratique et concrète du désir ardent avec l'argent. Peut-être même aussi avec des choses qui ont trait au plaisir charnel. C'est-à-dire qu'en vérité, la Torah nous a demandé d'épanouir des forces, qui sont des forces qui nous relient à l'envie de posséder de l'argent, à l'envie de jouir de la vie, pour nous rappeler que nous avons une âme et que cette âme, elle aussi, elle a besoin de son niveau de jouissance. Et qu'en vérité, derrière l'écran de l'argent et des plaisirs charnels, se joue une autre partie, qui est la partie du plaisir de l'âme. Car il faut savoir qu'on ne pourrait pas avoir de désir si on n'avait pas on ne pourrait pas avoir le désir d'étudier la Torah si on n'avait pas le désir du plaisir, le désir d'obtenir un plaisir dans le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces deux désirs-là, ils participent du même phénomène, qui est de faire un avec l'objet du désir, de fusionner avec l'objet du désir. Alors les gens qui s'arrêtent en route sont dépravés, débauchés, obsédés par l'argent, mais les gens qui comprennent que c'est un machal, eh ben, effectivement, ils vont chercher cet argent, ils vont chercher, mais ils vont en faire quelque chose. Ils vont faire des mitzvot avec. Et puis, ils vont savoir profiter de la vie comme la Torah nous le demande et dans le cadre où la Torah nous le demande. Ils vont savoir sublimer toutes les forces qui vont avec ce désir et ce plaisir, d'accord ? Mais dans le sens d'une construction. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre à se construire autour de ça. Ils vont apprendre à partager, ils vont apprendre à donner. Voilà, mes chers amis, une idée ici qui est extrêmement profonde et qui est une idée de base. Mais c'est vrai, effectivement, entre l'argent et nous, c'est une histoire d'amour, mais c'est une histoire d'amour pour arriver à un enfant. Cet enfant s'appelle la relation de fusion avec Hachem. En fait, au travers de l'argent et des plaisirs, on fait l'expérience de la fusion. Mais la vraie fusion, c'est celle de toutes les fonctions du corps, de l'âme jusqu'aux parties les plus matérielles, avec la volonté d'Hachem, justement, dans le moment où on accomplit les mitzvot, dans le moment où on accomplit la volonté d'Hachem. À réfléchir, Shabbat Shalom.
Rav Mordechai Biton, je vous remercie. À Jérusalem, Shabbat Shalom. Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gay, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Gay, alors vous voulez parler de Pessah et vous vous posez une question. Pourquoi la fête qui est quand même à l'origine de la Torah, à l'origine de la liberté du peuple juif, enfin, je vais pas dire la fin de l'esclavage, il y a des milliers de choses à dire qui concernent toute l'humanité. Pourquoi on l'appelle Pessah et donc a priori ça donne l'impression que presque un détail par rapport à l'énormité de l'événement. Alors pourquoi ?
Exactement. Alors effectivement, le mot Pessah, je vous rappelle, a été choisi parce que Hachem a été assarti, c'est écrit comme ça dans le verset, al baté bené Israël. J'ai sauté sur les maisons des enfants d'Israël, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés, c'était la nuit donc du 15 Nissan, à minuit, au milieu de la nuit, il n'y a que les premiers-nés égyptiens qui ont été frappés. Les premiers-nés bénis Israël, les enfants d'Israël, ont été épargnés. Et donc on a un korban Pessah, donc un sacrifice pascal. On a une maseret Pessahim, donc le traité de Gemara s'appelle Pessahim. Et de toutes les manières, d'une façon générale, on l'appelle la fête de Pessah. La question était, pourquoi ce détail du fait que Hachem, il est sauté, va être si important pour focaliser là-dessus et appeler cette fête au nom de ce détail. Pour répondre à cette question, je voudrais rappeler qu'en fait, les enfants d'Israël en Égypte, effectivement, sont comparés à un fœtus à l'intérieur du corps de sa maman. C'est-à-dire que le texte nous dit « Goy mekerev goy ». Les Juifs sont comme un peuple au sein d'un autre peuple. En clair, les Juifs en Égypte sont tellement assimilés et tellement intégrés, en tout cas au niveau intellectuel, au niveau de leurs croyances, qu'ils sont totalement sous influence égyptienne. Et donc, normalement, lorsque Hachem vient, Dieu vient le soir du Seder, tuer les premiers-nés égyptiens, il était que les enfants d'Israël subissent le même sort, les premiers-nés en tout cas. Qu'est-ce qu'a fait Hachem ? Il a fait en sorte que justement, à minuit, Hachem dit, se dit la Gemara dans Kiddushin, page 22, qu'il lit Israël à Vadim, à Vadaïhem. Il déclare, vous êtes mes serviteurs, vous n'êtes plus les serviteurs de Pharaon. Et d'ailleurs, Pharaon lui-même libère les Juifs et déclare haut et fort que suite à la Makat de Chorot, il les libère. Donc ce qui se passe le soir du Seder, ce n'est pas la libération, on va dire, physique, puisqu'ils sont toujours en Égypte. Ils ne partiront que le lendemain matin. Mais le soir du Seder, il y a une libération juridique. Akadosh Baruch Hu dit, c'est mes esclaves, mes serviteurs maintenant, et Pharaon les libère. Et donc il y a une sorte de on coupe le cordon ombilical qui nous reliait à donc le fœtus à l'intérieur du corps de sa maman, c'est-à-dire nous coupons le cordon ombilical qui nous relie à l'Égypte et nous prenons une indépendance qui va être définitive. Elle va même continuer pendant les autres exils. On est définitivement libre. Libre dans quel sens ? Même si d'autres peuples vont nous asservir, vont nous faire du mal, vont vouloir nous prendre en otage, on reste libre dans le sens où nous gardons notre identité et nous ne serons jamais leurs serviteurs, leurs esclaves. En tout cas, nous ne serons jamais autant, imprégnés de leur culture comme c'est le cas effectivement en Égypte. En Égypte, on dit qu'ils étaient dans les 49 ports de l'impureté, même si dans d'autres situations, nous serons dans des situations particulièrement difficiles, en Babylonie ou ailleurs, eh bien, on reste le Chérout Olam, un peuple capable d'être définitivement libéré. Dans quel sens libéré ? C'est que nous sommes profondément conscients de notre identité juive et nous ne baissons pas la tête Alors effectivement, hier, un otage a été libéré, une otage a été libérée qui a pris sur elle de faire Shabbat et de ne pas manger de viande. Ça a évidemment impressionné tout le monde, mais même celles qui n'ont pas respecté le Shabbat, je suis sûr qu'elles ont une identité juive extrêmement forte, extrêmement assumée, qu'elles n'ont jamais voulu ou pensé être véritablement sous férule du Hamas. On est véritablement un peuple qui, par notre identité, aucun peuple ne peut toutefois évidemment maîtriser nos corps. On peut évidemment se sentir, on peut des fois tomber dans leurs mains et notre corps est sous leur autorité. Mais nous restons libres dans le sens où notre profonde identité est juive et elle le reste. Et donc nous ne sommes plus aussi influencés et imprégnés de la culture de nos ennemis que l'a été le peuple juif avant la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte marque un tournant et ça se fait à Hatsa. Donc la notion de sauter, c'est de nous rappeler que c'est un grand miracle, c'est un grand cadeau qu'Hachem nous a fait en nous épargnant cette nuit-là la mort logique que nous devions subir parce que nous étions totalement imprégnés d'Égypte, l'Égypte. Et il a déclaré qu'à partir de cet instant, c'est l'an zéro du peuple juif. C'est la naissance du peuple juif. C'est comme si on était à ce moment-là expulsé du corps de notre maman, comme le moment de la naissance d'un fœtus qui devient un enfant. Eh bien, à ce moment-là, d'ailleurs, l'enfant commence à crier. Il découvre la force de la parole. C'est ce que nous faisons chaque soir du Seder. Où nous rappelons la puissance de la parole à travers la Haggadah. Nous racontons tout ce qui s'est passé dans la sortie d'Égypte. C'est donc le retrouvail de la force de la parole. Et c'est le moment de la naissance du peuple juif. Et donc c'est important de remercier Hachem pour ce grand miracle de nous avoir épargnés alors que juste avant, nous étions, a priori, devions subir le même sort que les premiers-nés égyptiens. C'est l'an zéro de la liberté, l'an zéro de la naissance du peuple juif et nous devons le marquer ce Shabbat d'une façon particulière puisque ce Shabbat à Shabbat Bo est un Shabbat évidemment charnière dans toute l'année. C'est le moment où on commence une nouvelle histoire dans le peuple juif et nous devons en être très conscients et c'est pour ça que nous espérons que la liberté, nous la ressentions évidemment psychologiquement, spirituellement et que nous espérons très bientôt retrouver tous les otages qui sont eux sous l'autorité malheureusement de nos ennemis et qui nous souhaitons les voir très bientôt être libérés également.
Amen, amen. Mais d'après ce qu'on a entendu de vous, ils sont déjà libres.
Ils ont déjà... Alors, ils sont libres dans le sens qu'ils ne seront jamais, on va dire, on ne pourra jamais toucher leur âme et leur identité, mais leur corps est toujours voilà, dans les geôles du Hamas et on espère les revoir bientôt tous.
Et quel meilleur moment pour se sentir libre qu'un vendredi soir à la maison, Shabbat, et avec sa famille, ses enfants? Rav Guay, je vous remercie et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Au revoir.